Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie, tous les lundis à 13h05. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille, en passant par le tonneau, rendez-vous les lundis à 13h05 et les dimanches à 17h sur Radio Cité Genève. Bonjour, comme tous les lundis à la même heure avec Aristide, nous parlons vin sur Radio Cité Genève. Bonjour Aristide.
Aristide vous salue, chers auditeurs de Radio Cité. Aristide est aujourd'hui en compagnie de Willy Crétenier. Je ne sais pas s'il faut le présenter parce que le personnage est plutôt connu. Je me suis efforcé de le définir en quelques mots et je les ai écrits pour être sûr de ne pas commettre de faux pas. Je vais vous dire comment je définis M. Crétenier. Alors, pour moi, c'est le militant d'une agriculture durable et plus largement d'une société durable. C'est un militant de l'équité. Je considère le personnage comme responsable. Pour Genève, c'est un grand défenseur, on peut même dire un pionnier du bio local. Par ailleurs, on peut le qualifier de combatif. Et puis, enfin, ça c'est une chose qui ne vous aura pas échappé, Willy Crétenier s'est investi dans l'arène politique. Est-ce que ma description est correcte, complète? Dites-moi.
Bonjour déjà, et puis je vous remercie pour cette description qui est vraiment honorable. Ça me fait plaisir. Ça traduit bien les traits un peu de mon parcours, d'une partie du parcours depuis quelques années.
Alors merci de votre présence. L'émission d'aujourd'hui sera un peu différente en ce sens que pour les précédentes, nous avons évoqué l'histoire de la vigne, l'histoire du vignoble genevois, que nous avons abordé des fois des sujets techniques relatifs à la vinification, relatifs au bouchage, etc. Aujourd'hui, ça tiendra plutôt du débat, puisque vos opinions sont bien ancrées. Nous allons pouvoir lancer des idées et vous allez forcément défendre les vôtres. Alors, je lance l'émission d'une façon peut-être un tout petit peu bizarre, avec la rubrique dite « La chaussette ». Donc la chaussette, je vous fais goûter un vin, mais sans vous dire d'où il vient. Généralement, on a des vins genevois, puisque c'est le sujet de l'émission. Je ne vous dis pas si c'est un vin suisse, un vin genevois, un vin étranger. Donc nous allons le goûter pour lui-même.
D'accord.
Alors le bruit sympathique du bouchon... Voilà, comment donc ?
Merci.
Alors, vous le nez, bien entendu, etc., etc. Vous connaissez la procédure alors, mieux que moi.
Bon, ce qu'on peut déjà dire pour les auditeurs, puisque vous ne voyez pas le verre, c'est qu'on a un vin qui est légèrement rosé, avec un vin qui est apprécié en général en été, apprécié quand il fait chaud. Aujourd'hui, c'est peut-être pas le jour du rosé, mais il y a d'autres jours qui vont certainement venir où ça sera le moment du rosé. Alors au nez, je dirais que c'est pour moi, si c'est un rosé de la région, pour moi ça sera de la région, je veux dire suisse romande, ça serait un rosé plutôt un rosé de pinot. Donc je dirais plutôt un rosé de pinot noir, donc ce qu'on appelle souvent œil de perdrix, que les Neuchâtelois ont malheureusement oublié de protéger, mais je pense qu'on est sur un nez de rosé de pinot noir.
Le but de la dégustation, c'est pas de dire d'où le vin provient, quel est le millésime, etc.
Ouais.
Mais simplement de l'ausculter pour ses caractéristiques.
Alors ses caractéristiques. Pourquoi j'ai dit que c'était peut-être un rosé de pinot noir. C'est parce que c'est un nez qui est assez gras, assez volumineux, avec des notes de petits fruits qui font penser à du pinot.
Pour l'avoir goûté, moi, je dirais oui, effectivement, ça ressemble furieusement à Pinot, par la clarté d'ailleurs, par la couleur. Mais sans qu'il soit vraiment âcre, je trouve que le Pinot est généralement un peu plus rond.
Alors, on a un sentiment de gras au nez, qu'on retrouve peut-être un petit peu moins en bouche, quoique, il y a quand même un petit peu de gras. Mais ça pourrait être un assemblage de Pinot Gamay, par exemple, en rosé, ça pourrait, parce qu'il y a un petit peu de vivacité en bouche, mais je dirais qu'il a un bel équilibre entre l'attaque en bouche et la fin de bouche, on est sur les mêmes caractères, puis on retrouve un petit peu ces côtés petits fruits qu'on avait au nez, on les retrouve aussi en bouche, mais la vivacité, je vois plus de la vivacité que de l'amertume, Et la vivacité dans un rosé, c'est plutôt plaisant parce que quand il fait chaud, un vin qu'on sert frais, c'est intéressant qu'il y ait une légère vivacité.
Voilà, alors voilà. Comme à l'école, on donne une appréciation bien, très bien, moyen, passable, médiocre. On lui donne une note.
Alors, la plupart des dégustations, on est sur des notes sur 20. Moi, je dirais qu'on est dans une fourchette, je pense, entre... Moi, je lui mettrais 18, 17, 18.
Très bien. Alors, voilà. À votre grande surprise, je vais vous montrer que ce vin, il n'a pas une dénomination particulièrement flatteuse.
D'accord.
Voilà, éclat de rire de notre invité. Sur l'étiquette, je lis le vin de merde. Donc, c'est un vin qui vient du Languedoc, de la région sétoise. L'étiquette est noire avec inscription blanche et puis il y a une mouche bleue qui est, enfin, vraiment d'un réalisme. Enfin, c'est très prosaïque. Et alors, on vous doit une explication pour cette curiosité. Mm-hmm. Donc, c'est l'histoire d'un restaurateur de la région sétoise, l'arrière-pays. Et ce restaurateur qui avait un établissement de qualité avait l'habitude d'apporter la carte des vins à ses clients. Et comme on est dans le Languedoc, les premières pages sont consacrées au Languedoc. Après, il y a les Côtes du Rhône, les Bordeaux, les Bourgognes, etc. Mais d'abord, les vins du Languedoc. Et ce restaurateur a constaté que les gens, quand ils tombaient sur les pages initiales, fronçaient les sourcils, puis disaient « Ah non, faut pas prendre du Languedoc, c'est du vin de merde ». Voilà.
D'accord.
Donc, il a entendu ça 100 fois et 1000 fois, tant et si bien qu'il a décidé, par provocation et par réaction, de faire cette cuvée vin de merde, mais justement en piégeant les gens, en mettant un vin qui est quand même d'une qualité appréciable.
Mm-hmm.
Alors, commercialement, c'était un succès extraordinaire, puisque j'ai acheté cette bouteille dans la région. Et, en somme, je voulais vous poser la question suivante. Vous êtes pour la consommation locale?
Oui, bien sûr.
Bien entendu.
C'est clair.
On
ne
fait pas venir le vin de 10 000
kilomètres. Pour différentes raisons. Ouais.
Donc, lui, il a eu le même mouvement, la même réaction. Il dit, mais on est en Alsace, on boit alsacien avec la choucroute. On est à Marseille avec la bouillabaisse, on boira en Côte de Provence. On est à Genève, etc. On est dans le Languedoc, mm-hmm. La même chose. Donc, vous vous sentez proche de ce monsieur?
Alors, je pense qu'il a raison de mettre en avant, de vouloir faire réagir, et ça permet en lançant ce genre de pavé, ça permet de faire causer de cette problématique des produits de proximité qui sont pas toujours mis en avant, ce qui est dommage, et qui souvent c'est marrant, mais des fois les produits régionaux, ça l'est moins maintenant, mais il fut un temps où des fois les produits régionaux, c'était des produits auxquels on s'intéressait pas trop. Heureusement, maintenant ils sont plus mis en avant. Alors, je sais pas si je mettrais une étiquette de ce type sur le vin. Je pense pas que j'irais jusque là. J'essaierais par d'autres moyens que ça, de mettre en avant le vin de la région. Mais s'il faut faire réagir, je pense que c'est une manière de faire réagir qui est marrante, qui est épique,
en tout cas efficace.
Certainement efficace, et certainement que les gens qui ont bu ce vin dans son restaurant s'en sont bien rappelés, et certainement chaque fois qu'ils sont maintenant dans une région, ils pensent à consommer régional. Donc je pense que l'impact a dû être assez bon. Ouais.
Oui, disons, pour attester le succès, c'est tout simple. Hein. Quand je fais déguster une bouteille comme ça, tout le monde me dit « Tu l'as acheté où ?» Alors voilà.
Oui, pour avoir l'étiquette.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève. Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie, tous les lundis à 13h05. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille, en passant par le tonneau, rendez-vous les lundis à 13h05 et les dimanches à 17h sur Radio Cité Genève.
Toujours Aristide, qui a le plaisir de recevoir Willy Crétenier, dont on a donné une description une description, disons, fidèle au combattant qu'il est. Nous poursuivons avec le Languedoc parce que je me rappelle bien que, bon, ça fait des décennies maintenant, du temps de Giscard d'Estaing, le Languedoc criait misère parce que les vins étaient déconsidérés, donc les producteurs réclamaient des aides de l'État. Et je me rappelle très très bien que le ministre de l'Agriculture de l'époque, qui s'appelait Christian Bonnet, avait dit aux producteurs, bon, arrêtez de faire de la bibine et après ça ira. Et maintenant, il m'arrive de déguster de temps en temps des bouteilles du Languedoc. Il y en a qui sont absolument admirables. Et je pense que dans le Languedoc, le niveau général de la qualité a subi une hausse absolument spectaculaire. Est-ce que à Genève, on est dans le même cas pour vous de vins déconsidérés qui ont une cote toujours meilleure?
Alors, je crois qu'on peut déjà dire que dans le monde en général, les vinifications ont évolué, la qualité est montée dans beaucoup de régions. Et c'est vrai que Genève était certainement dans une situation assez proche du Languedoc, c'est-à-dire une région où les vins étaient décriés. On disait, attention, le vin genevois, ça raye les vitres. Il y avait plein de termes comme ça qui dénigraient vraiment le vin genevois. Le vin genevois a fait d'énormes progrès en vinification. On a aussi beaucoup diversifié les cépages. Je dirais que c'est le vignoble genevois, c'est un peu devenu un laboratoire, une région où il y a toute une dynamique d'essais, d'envie de chercher des nouvelles choses, soit à la vigne. Parce que le vin, c'est pas seulement les vinificateurs, c'est aussi des gens qui travaillent la vigne. Et déjà, rien que dans les vignes, Genève est un endroit où il y a plein de choses qui se passent, des essais. On est aussi un des cantons qui a été dans les premiers à avoir des vins bio, des vignes aussi avec des systèmes de production qu'on voyait pas encore ailleurs. Hein, je veux dire, ben la Guyot, par exemple, elle est arrivée à Genève. La taille Guyot est arrivée à Genève en premier. Il y a eu la Lyre il y a quelques années. La Lyre, qui est un système qui a été développé pour avoir le maximum de surface foliaire à disposition, puisque la qualité du raisin et le rapport entre quantité de raisin et surface foliaire.
Les lyres, donc, c'est ces espèces métalliques.
Tout à fait.
C'est ça.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est une région d'essai. C'est une région où, depuis plusieurs années, on peut dire que les vignerons ont envie de trouver j'allais dire s'amuser, mais on s'amuse pas, mais quand même, parce que c'est un métier de plaisir. Donc, dans cette recherche du plaisir, ben il y a des recherches en vinification. À Genève, vous avez plus de 37 cépages. Je crois qu'il y a 37 ou 40 cépages différents qui sont cultivés, dont certains où c'est anecdotique la surface, mais c'est quand même une région avec énormément de variétés différentes. Et puis, en vinification, on passe de la cuve qui est totalement neutre, aux foudres en chêne, aux barriques, aux amphores en argile, aux amphores en terre cuite. Il y a vraiment une diversité qui est très intéressante.
Donc, on peut parler de progrès technique, de créativité, et puis dire, si je veux résumer, qu'un peu partout, le niveau monte et de manière extrêmement rapide.
Oui, tout à fait. Le niveau est vraiment monté de manière rapide. On peut rappeler que hier soir, il y avait la présentation des médailles du concours cantonal des vins genevois, avec pas mal de médailles d'or, et surtout quelque chose qui était vraiment très agréable à voir hier soir, c'est tous les jeunes qui arrivent dans la profession. Et donc presque chez tous les vignerons, il y a les enfants qui sont là, qui reprennent tout seuls ou à plusieurs. Donc il y a un engouement des jeunes aussi pour continuer le métier des parents. Donc je crois que les parents, en diversifiant, en étant dynamiques, ont donné envie aux jeunes de continuer.
Est-ce que je peux dire que pour le vigneron, en somme, il n'y a pas de salut possible sans qualité?
Alors, ça, c'est clair. Je dirais,
la quantité,
ça
marche plus.
Je dirais que dans tous les métiers, la qualité est quand même un élément extrêmement important pour la commercialisation. C'est important aussi pour le plaisir qu'on retire de son travail. Je veux dire, quand on essaye de faire la meilleure qualité possible, on peut parler là de passion, parce que il faut de la passion pour essayer de faire le meilleur. Mais malheureusement, ça suffit pas aujourd'hui. On est dans une politique économique qui aujourd'hui ne favorise pas la qualité, elle favorise surtout les produits avec des prix bas. Donc là il y a on a un problème. Les vins suisses ont fait une progression énorme et les genevois, comme on vient de le dire, mais sur le plan commercial, ça devient extrêmement dur, il y a une concurrence qui est extrêmement forte.
Mais la législation va dans le sens de la qualité.
La législation encourage et incite à la qualité, on peut dire, on voit avec même les vins de merde, comme on l'a dit tout à l'heure, sont bons. Donc on peut dire que la qualité en général est montée, mais aujourd'hui la législation favorise plutôt le prix bas. Donc ça devient un énorme problème pour la viticulture, pour l'agriculture, la viticulture en particulier, parce que il y a des gros efforts qui sont faits pour faire de la qualité, et c'est mal récompensé par une situation du vignoble qui est assez grave aujourd'hui en Suisse, où il y a une mévente qui est liée à une distorsion de concurrence de vins, par exemple du Languedoc, hein, il y a beaucoup de vins de Pays d'Oc dans les supermarchés, mais le problème c'est pas la qualité de ces vins, le problème c'est le prix de ces vins qui arrivent sur notre marché à des prix que nous on peut pas concurrencer.
Voilà, nous évoquons la question du prix des vins. Nous allons évoquer dans un petit moment, après une pause, la question des taxes.
Radio Cité Genève,
92.2 FM. Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie, tous les lundis à 13h05. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille, en passant par le tonneau, rendez-vous les lundis à 13h05 et les dimanches à 17h sur Radio Cité Genève.
Voilà, nous sommes toujours en compagnie de Willy Crétigny, et une question que nous n'avons pas encore abordée à ce jour, c'est celle des taxes. Alors, l'idée d'évoquer ce sujet m'est venue l'autre jour à l'écoute d'une radio qui disait, voilà, le président américain, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, genre, peu importe, c'est un type un peu particulier, je crois. Enfin bon, eh bien, il a décidé de taxer davantage les vins français, parce qu'il a observé que pour une petite différence de quelques pourcents, hein, ce n'est pas une monstruosité, les vins français étaient favorisés aux États-Unis, alors que les vins américains, californiens surtout, seraient pénalisés en France. Donc, on joue des taxes. Alors, je sais pas, a priori, même si vous n'êtes pas un grand adepte de ce président, l'idée des taxes, peut-être, c'est une idée que vous retenez. Qu'en est-il, par exemple, si je bois un vin australien ce soir, à supposer? À quelle taxe est-il soumise?
Alors, pour prendre un exemple, hein, c'est quelque chose dont on a parlé pas plus tard que hier. On parlait de ça parce que moi, je suis président des vignerons suisses, et on rencontre Monsieur Parmelin la semaine prochaine.
Vignerons de son état, vignerons à l'origine.
De son état, parce que justement, on réclame des taxes. Alors, c'est vrai que la taxe, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. On n'aime pas être taxé. On n'aime pas devoir payer toujours plus. Mais c'est très important de redonner une image positive de certaines taxes, parce que elles ont un rôle. Elles sont pas mises là juste pour embêter les gens. Elles ont un rôle. Elles ont le rôle principal de ces taxes de douane, c'était d'éviter la distorsion de concurrence, c'est-à-dire de créer un équilibre entre les différentes économies, de manière à ce qu'un produit d'ici soit dans une concurrence loyale avec un produit étranger. Donc on y met une taxe de manière à ce que la concurrence s'exerce pas sur le prix, qui est de toute manière plus bas si on prend des vins espagnols, des vins français, ou des vins italiens où les coûts, notamment de la main d'œuvre, sont beaucoup plus bas. Hein. Un employé dans la vigne en Espagne, c'est 600 euros par mois. En Suisse, c'est 3300 francs le tarif de départ, de base d'un salaire dans l'agriculture.
Donc 5 fois plus.
Donc 5 fois plus. Donc il y a une nécessité de rééquilibrer pour que la concurrence soit loyale et puis que le choix des produits se fasse sur la qualité et sur la qualité du service de la maison qui commercialise plutôt que sur le prix. Donc pour revenir sur des chiffres, aujourd'hui en Suisse, la moyenne des vins importés en vrac se situe entre 1,15 francs et 1,90 francs le litre suivant les catégories. Et là-dessus, vous êtes à, il y a une moyenne, on peut dire une moyenne d'à peu près 1,50 francs le litre et vous êtes pas à 2 francs quand vous y ajoutez les taxes. Donc on est pourquoi ? Parce qu'on est sur des contingents tarifaires aujourd'hui, avec le libre-échange, l'OMC a imposé des contingents tarifaires, ça veut dire c'est des contingents où la taxe est au plancher, la taxe est au plus bas. Ce qui est négocié, c'est de faire diminuer au maximum, voire faire disparaître la taxe. Donc tout ce qui est importé dans le cadre du contingent et importé à des taxes qui se situent autour de 25-30 centimes le litre au maximum.
Donc ça suffit absolument pas à équilibrer la concurrence.
Absolument pas. D'ailleurs, on voit aujourd'hui dans certains magasins des litres, et c'est en litres, mais ça a l'apparence d'une bouteille de 75 centilitres, des litres de Sauvignon blanc du Pays d'Oc à 4,90 la bouteille. Aujourd'hui en Suisse, un vigneron ne peut pas mettre du vin en bouteille, du litre en bouteille et le mettre sur le marché à ce prix-là, c'est impossible. C'est possible seulement en ne payant pas ses employés le prix juste, en payant pas ses charges le prix juste. Donc là, pour moi, il y a un problème de droit et je soutiens pas le président Trump dans toutes ses
Trump,
actions.
Voilà, ça me revient.
Dans ses actions et peut-être aussi sa manière de faire de la politique qui est très provocatrice. Bah, je pense qu'il n'y a pas nécessité d'être dans la provocation, mais il y a nécessité aujourd'hui de redonner une vraie image à ces taxes parce qu'elles ont un rôle pas seulement pour le vin, elles ont un rôle pour tout l'emploi puisque tous les produits qui sont fabriqués dans chaque pays sont sous une distorsion de concurrence terrible qui fait qu'on encourage la délocalisation.
Bon, j'essaye de faire la synthèse parce que je me dis que Genève exporte peu de ses vins, c'est un très faible pourcentage. Mmh. Par contre, Genève importe beaucoup. Ce qui fait que ça vous met dans une situation foncièrement et de manière permanente défavorable.
Tout à fait. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que aujourd'hui en Suisse, on se pose la question comment continuer à cultiver s'il n'y a pas des mesures justement sous forme de taxes ou de limitation de l'importation, surtout sous forme de taxes. Nous, on conteste pas le besoin d'importer, mais qu'on importe à des conditions qui font que c'est pas destructeur pour la production locale, qu'elle soit agricole ou artisanale ou industrielle. On doit avoir une concurrence qui est loyal. Aujourd'hui, en Europe, il faut savoir que le vignoble européen augmente ses surfaces chaque année puisque la communauté européenne a autorisé à une augmentation de 1% de la surface viticole par année. Donc, on est dans une situation de concurrence qui est inacceptable puisque les vins arrivent avec des subventions à l'export chez nous à des prix extrêmement bas. Et en plus, ils sont dans une augmentation des volumes par année, alors que nous, on est maintenant dans une situation où on est passé de 125 millions de litres de consommation en Suisse en 1990 à 85 millions, je parle des vins suisses uniquement, à 85 millions aujourd'hui. Et la consommation totale en Suisse était 310 millions en 90 et elle est tombée à 270 millions. Et on constate tout de suite que c'est le vignoble suisse qui a encaissé, qui doit supporter cette diminution de la consommation et pas l'importation.
Voilà. Je sais pas si vous partagez mon pessimisme au total, mais il me semble que la situation est la suivante. C'est-à-dire que, à supposer qu'on taxe de manière assez violente les vins français, espagnols, etc., il y aura des représailles parce que la Suisse exporte aussi d'autres produits. Donc, est-ce que cette situation, elle ne tient pas compte d'une espèce de marché tacite général, mondial, qui, dans le cas présent, est vraiment défavorable aux vignerons?
Alors, il faut pas oublier qu'on a été pendant de longues années, les deux derniers siècles, on a été beaucoup plus souvent en politique protectionniste qu'en politique libérale au niveau des échanges. Et pendant toutes ces périodes, l'économie locale était forte. Donc, on sacrifiait pas l'économie locale pour l'exportation. L'exportation, c'était la cerise sur le gâteau, et la Suisse exportait parce qu'elle faisait des produits de qualité, et donc c'est pas le prix qui favorisait l'exportation, c'est la qualité des produits qui favorisait l'exportation, notamment dans les machines-outils, dans les montres et tout ça. On exportait parce qu'on était au top de la qualité. Aujourd'hui, on est dans tous les pays en train de sacrifier l'économie locale au profit de l'exportation. On doit, pour différentes raisons, revenir à la situation précédente pour des questions de politique économique, de manière à ce que l'économie locale soit préservée et soit de qualité, parce qu'elle est durable, elle est stable, il y a une certaine stabilité au niveau de l'économie locale. L'économie locale joue un rôle extrêmement important en termes de tissu. J'aime beaucoup l'image du tissu, parce que le tissu social ou économique, un tissu, c'est des fils qui se croisent et qui dépendent les uns des autres. Donc, un tissu, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui rassemble, qui crée une interdépendance. Et aussi, il y a la question environnementale, parce qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'on doit, en matière de prix, avoir des prix qui sont en lien direct avec notre pouvoir d'achat, de manière à limiter la surconsommation. Aujourd'hui, si les gens surconsomment, c'est qu'ils ont accès à des produits à un prix qui n'a plus aucun lien avec leur pouvoir d'achat, et on multiplie les transports de marchandises d'un bout à l'autre de la planète avec une pollution, un impact au niveau pollution qui est terrible.
Voilà, donc si je comprends bien, votre atout principal, c'est un lien authentique, véritable, suivi avec vos clients, clients de proximité, parce que c'est vrai que quand on prend une bouteille dans un supermarché, on n'a absolument aucun lien avec le vigneron, et je pense que c'est là-dessus que vous misez. Voilà, nous arrivons à une nouvelle petite pause.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève. Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie, tous les lundis à 13h05. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille, en passant par le tonneau, rendez-vous les lundis à 13h05 et les dimanches à 17h sur Radio Cité Genève.
Nous avons l'honneur d'accueillir Willy Cretigny. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a bientôt les votations fédérales, que M. Cretigny se présente, après avoir fait un score extrêmement honorable au Conseil d'État, donc se présente pour le national. Si vous êtes élu, est-ce que vous allez vous rapprocher des écologistes?
Alors, je vais surtout continuer à défendre mes idées. Je préciserai juste que je me présente pour le Conseil des États et pas pour le Conseil national, ce qui est une différence quand même, parce que et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller plutôt sur la piste du Conseil des États, puisque je suis un indépendant. Parce que si on va au national en tant qu'indépendant, ben il faut s'apparenter à un parti pour avoir droit aux commissions, à la participation aux commissions. J'ai décidé de me présenter pour le Conseil des États parce que, d'une part, en tant qu'indépendant, c'est intéressant et c'est important peut-être pour le canton. C'est même un atout, je dirais, pour le canton, d'avoir quelqu'un d'indépendant au Conseil des États, puisque c'est le Parlement qui représente les cantons. On ne représente pas directement un parti ou une population, on représente vraiment le canton dans son ensemble. On est deux par canton, donc c'est à égalité pour tous les cantons. Et c'est vraiment le Parlement des cantons, c'est le Parlement de l'arbitrage. Donc c'est une place qui est très intéressante par rapport à tous les projets que j'ai, à ma vision de la société. Ça m'intéresse d'être à cet endroit-là. Donc c'est clair que je vais défendre des idées vertes, parce que je suis un militant de l'environnement depuis longtemps, mais je suis aussi j'ai une vision, je dirais, assez large. J'ai plutôt une vision de société, une vision sociétale, que juste une question d'environnement, de protéger les animaux, protéger les forêts. Moi, je vois ça de manière beaucoup plus globale.
D'accord. La question que je voulais vous poser, c'est celle-ci. Elle est très pragmatique. En somme, on fait l'hypothèse que vous êtes élu. J'allais vous demander quels sont les premiers boulets de canon que vous préparez. Alors, je formule la question différemment. Quelles seraient vos premières interventions?
Alors là, on se trouve, on serait au Parlement, disons, si je suis élu, je suis au Parlement en décembre. En décembre, j'espère que d'ici là, l'accord institutionnel avec l'Europe n'aura pas été voté, j'espère, parce que j'aimerais bien pouvoir intervenir dans ce débat, puisque l'accord institutionnel favorise encore plus tous les accords de libre-échange qu'on a passés. Et moi, je suis partisan pour renégocier ces accords, puisque c'est destructeur en matière d'économie locale surtout. C'est destructeur aussi sur la question de l'environnement, puisque ça a un objectif, c'est d'encourager vraiment les échanges de marchandises, donc les transports. Ça facilite aussi le déplacement des personnes, mais ça veut dire aussi beaucoup de transports. Et puis aussi sur le plan plus politique, la question des choix. Je crois qu'on a de la chance en Suisse d'être une démocratie directe avec beaucoup de possibilités d'intervention. Et je crains aujourd'hui qu'avec l'automatisme des décisions européennes qu'on devrait adopter par automatisme, pour moi, c'est un véritable danger. Je pense que la Suisse doit rester souveraine, doit garder cette capacité à décider de son avenir. Et ça, c'est pour tous les peuples. Je pense que ce qui est très important, et je l'ai défendu à Genève, l'idée que par rapport à la croissance du canton, on doit absolument aller vers un développement du canton qui est choisi. Et qui est choisi par la population. Donc ça serait mon premier objet, je dirais, c'est cette question-là de cet accord institutionnel qui est très dommageable aussi pour l'agriculture, pour la viticulture.
Voilà, donc première priorité de Willy Cretigny. Nous sommes géographiquement cernés par l'Europe, et étant cernés, il est important que nous gardions notre indépendance et que nous ayons la main sur les décisions qui conditionnent notre avenir.
Tout à fait.
Eh bien, je vous remercie de nous avoir fait partager vos opinions et vos combats. Et ben voilà, est-ce qu'il faut dire bonne chance? Mais on espère en tout cas que quelqu'un est là pour défendre vos idées et bien d'autres. Merci à vous.
Merci.
Radio Cité Genève.
92.2 FM.